Vivre FM,
podcast. Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur Vivre FM. Dans quelques instants, on se retrouve pour une nouvelle émission de Recherche et Partage. Une émission proposée en partenariat avec la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap, et avec l'OCIRP, bien sûr, qui nous soutient. Dans Recherche et Partage, on vous fait découvrir des projets de recherche qui s'appliquent à trouver des solutions concrètes pour améliorer la vie des personnes handicapées en France et ailleurs aussi. Et aujourd'hui, pendant une bonne demi-heure de causerie au coin du micro, nos invités, EES, puisque nous n'avons que des femmes en plateau, nos invités vont vous parler d'un beau projet de recherche qui vise à analyser les relations entre les enfants handicapés, entre enfants handicapés et entre enfants handicapés et enfants issus du milieu ordinaire. Je ne vous en dis pas plus, le mieux c'est que vous restiez à l'écoute de Vivre FM, on se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour une nouvelle émission de Recherche et Partage. Alors autour des micros aujourd'hui, nous recevons, je commence, elle est à ma gauche, par le docteur Anne-Emmanuelle Piquet-Massin, qui est neuropédiatre au CESAP, qui est le comité d'études, d'éducation et de soins auprès des personnes polyhandicapées. On va revenir sur tous les sigles que je vais citer en introduction. En tout cas, bonjour Anne-Emmanuelle.
Bonjour.
À côté, nous avons Geneviève Laurent, qui est présidente de l'ANECAMS, alors l'Association nationale des équipes contribuant à l'action médico-sociale précoce. Là aussi, on va se faire tout l'alphabet en sigles ce soir, je crois. Enfin, ce midi. Donc, bonsoir Geneviève
bonsoir.
Laurent. Et Régine Sell, professeure de psychopathologie, directrice adjointe du laboratoire Clipsid, clinique, psychanalyse et développement. J'ai tout bon ? Pour l'instant, ça va. Bonjour à toutes les trois. On va parler d'un projet de recherche qui s'appelle « Les relations entre les enfants en situation de handicap ». Par enfant, on entend des enfants de 0 à 6 ans, et particulièrement avec les enfants ordinaires. Et on va s'intéresser précisément, enfin en tout cas vous allez vous intéresser, aux facteurs favorisant ou entravant le développement des enfants en situation d'inclusion. Pour commencer à déflorer un petit peu ce sujet, on va peut-être revenir sur les origines de ce projet de recherche. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité toutes les trois participer, en tout cas monter ce projet de recherche? Quelle vous a paru être l'urgence et l'intérêt d'étudier précisément ces facteurs favorisant ou freinant les relations entre les enfants? Alors, qui veut démarrer peut-être pour nous présenter un petit peu les origines du projet? Régine?
L'origine du projet, elle vient de loin, puisque le laboratoire dans lequel je suis travaille depuis très longtemps sur les relations entre enfants dans la famille. Donc, il y a déjà eu beaucoup de travaux de fait sur cette question. Et je dirais que l'origine du projet, c'est aussi une pratique clinique de travail avec les haltes-garderies, les crèches, les écoles maternelles, où on voit que souvent les enfants en situation de handicap se retrouvent parfois isolés, en difficulté, en tous les cas, pour interagir avec leurs petits copains et petites copines. Toutes ces difficultés ne sont pas imputables à la déficience particulière, mais peut-être aussi au fait que ces enfants ne sont pas dans des conditions optimales pour créer des relations avec leurs petits copains et leurs petites copines. L'autre point important aussi qui rend ce projet original, c'est que dans les soins apportés aux tout-petits, l'accent est de plus en plus mis sur les relations adultes-enfants. C'est-à-dire qu'on multiplie le nombre de rééducations adultes-enfants. Et une des hypothèses, c'est que ça développe chez l'enfant des capacités à interagir avec l'adulte et pas forcément interagir avec les autres enfants. Voilà. Donc c'est un peu cette double origine-là.
Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que effectivement, c'est un des âges où on interagit finalement le plus avec des personnes de nos âges, justement.
C'est-à-dire qu'on oublie souvent que l'enfant apprend, enfin pas les mêmes choses avec les adultes, mais en tous les cas, il apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ses petits copains, ses petites copines, ses frères, ses sœurs. Et ça, on l'oublie un peu. Et apprendre avec les copains, c'est pas naturel. Ça s'apprend, si je puis dire. Et on a quand même des situations d'enfants en situation d'inclusion, qui sont dans une situation difficile pour nouer des liens avec les autres. Donc, ils se trouvent ou isolés, ou, je dirais, pas pris dans le groupe d'enfants. Donc, ils deviennent soit la mascotte, soit aussi l'objet de maltraitance, quand même.
Alors, on va repréciser aussi, parce qu'il y a un traitement particulier. On parle d'enfants qui ont des handicaps, on parle de tout type de handicap, on parle spécifiquement de certains handicaps. Pour préciser un peu pour les auditeurs, de quoi on parle dans ces haltes-garderies, dans les...
Ben justement, un des objectifs de la recherche, c'est qu'il y a plusieurs types de déficiences. Des déficiences qui vont atteindre la cognition, donc par exemple la trisomie 21, des déficiences qui vont atteindre l'aspect moteur, donc des enfants par exemple qui ont des pathologies d'origine centrale, qui peuvent avoir des difficultés à marcher, mais pas forcément des difficultés intellectuelles, et puis des enfants polyhandicapés. Donc l'idée, c'est aussi de comprendre... En regardant ces enfants ayant des difficultés différentes, comment ils se débrouillent, parce que l'idée, c'est quand même aussi ça, hein, c'est d'être dans une observation pour comprendre comment l'enfant, malgré ses difficultés, tente de nouer des liens. En fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'il tente de nouer des liens, mais pas forcément de façon adéquate. Donc ça met mal à l'aise les autres enfants. Et donc l'idée, c'est de bien comprendre, de bien analyser les initiatives de liens, comment c'est reçu, comment l'adulte les traite, pour pouvoir après favoriser ces liens-là.
Enfin, on va revenir sur ces relations avec les enfants, mais d'abord peut-être un mot avec Geneviève Laurent et le docteur Anne-Emmanuel Piquet-Massin, pour qu'on voit aussi les différents acteurs qui interviennent dans ce projet de recherche. Geneviève, vous êtes là en tant que présidente de l'ANECAMPS. Est-ce que vous voulez peut-être en dire un mot, qu'on précise aussi de quoi il s'agit? J'ai dit Association nationale des équipes contribuant à l'action médico-sociale précoce. C'est un peu lourd, c'est pas forcément très clair pour nos auditeurs.
Voilà, en fait, au départ, l'ANECAMPS rassemblait tous les CAMS, c'est-à-dire les centres d'action médico-sociale précoce. Et puis, petit à petit, c'est venu plutôt à rassembler un dispositif d'action précoce, c'est-à-dire que dans nos adhérents, on a bien sûr la quasi-totalité des CAMS, mais on peut aussi avoir des haltes garderies, des PMI, tous ceux qui sont concernés par l'action précoce, que ce soit d'ailleurs des professionnels, l'essentiel, mais nous avons aussi des parents qui se sentent porteurs d'un projet par rapport à cette collectivité d'enfants. Et c'est vrai que lorsque Régine nous a parlé de ce questionnement, de ce projet de recherche, on a tout de suite réagi en disant oui, c'est fondamental, puisque dans les CAMS, on avait depuis longtemps une réflexion sur qu'est-ce que c'est que ces enfants qui sont handicapés, qui demandent des soins excessivement précoce, excessivement complexe et multiple souvent. Et comment peut-on leur faire vivre leur vie d'enfant, de nourrisson puis d'enfant, avec tant d'adultes qui sont autour d'eux? En se disant, tous ces adultes autour d'eux, peut-être ont un impact sur le long terme, le développement de cet enfant, au-delà du handicap. Et la question, c'était, mais effectivement, ils passent plus de temps en relation avec des adultes qu'en relation avec leur père. Et très vite, dans un certain nombre de CAMS, on a mis en place des groupes d'enfants handicapés, des groupes de fratrie, des groupes où il y avait et l'enfant handicapé et sa fratrie. Et les familles nous invitaient à ça, dans la mesure où l'objectif aussi, c'était de faire vivre la vie d'enfant et d'inclure ces enfants le plus tôt possible dans les crèches, les haltes garderies. Et que souvent, la reproduction de ce qui se faisait aussi peut-être dans les structures de soins, c'était une attention tellement particulière du personnel de cette dite crèche que l'enfant, il était, je dirais, avec une attention particulière des adultes, et que tout le travail qu'on avait à faire en tant qu'équipe de soins, c'était de dire, mais il est en crèche avant tout pour être avec ses camarades et avec ses pères.
Docteur Anne-Emmanuel Piquet-Massin, je vous vois hocher la tête. Vous êtes, j'imagine, pleinement d'accord avec ce que vient de nous dire Geneviève Laurent. Un mot sur le CESAP dans lequel vous intervenez et qui vous permet, j'imagine, d'avoir à peu près le même regard.
Alors, le CESAP est une énorme association qui est essentiellement basée dans l'Île-de-France, avec des structures très diverses, donc des services de soins à domicile qui accueillent des enfants de 0 à 12 ans. Il y en a quasiment dans tous les départements, des CAMS, où travaillait Geneviève Laurent, et des externats et des internats, voire même des maisons d'accueil spécialisées quand les enfants grandissent. Je suis particulièrement intéressée par ce projet parce qu'on a aussi donc des enfants qui soient en service de soins à domicile, donc dans les crèches, au milieu de vie, parce qu'on les voit, ces petits, avec des interactions adultes, kiné, orthophonie, psychomotricienne, ergothérapeute. de plus en plus et avec 2 à 3, parfois 3 séances par jour. Et on se dit, quand vont-ils vivre leur vie d'enfant ? Donc je rejoins Madame Laurent sur ce sujet-là. Et quelle est l'interaction ? Qu'est-ce que plus tard, comment plus tard vont-ils évoluer ?
À quel moment on a basculé un petit peu là-dessus, j'allais dire, à quel moment on a oublié de faire vivre à ses enfants cette vie d'enfant? C'est lié aux structures même d'accueil qui existent aujourd'hui?
C'est lié.
Régine?
Moi, je pense que c'est lié aussi à un développement important de connaissances et de compétences dans le domaine de l'éducation, de la rééducation de ces enfants-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un progrès absolument phénoménal quand même sur de quoi ces enfants ont besoin pour grandir. Et c'est vrai que là, l'axe a été pris de l'adulte-enfant et beaucoup moins des enfants entre eux. Alors, je pense que par rapport à ce qu'on dit Anne-Emmanuel et Geneviève, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand l'adulte interagit avec l'enfant, l'adulte va s'adapter à l'enfant. C'est une relation asymétrique. Par exemple, si l'enfant s'exprime pas bien, l'adulte va lui dire « qu'est-ce que tu veux me dire ?» Il va rester auprès de lui, il va le regarder, il va essayer de trouver le meilleur ajustement avec l'enfant. Hein. Donc l'enfant va s'habituer finalement à ce qu'on s'ajuste à lui, même si l'adulte va jouer un petit peu de plus en plus avec, en lui demandant « toi aussi, il faut ». Mais il y a quand même là quelque chose d'une relation asymétrique. Dans les relations entre enfants, on n'est pas dans cette situation. C'est-à-dire que si l'enfant montre un objet de façon pas claire, le petit copain de 3 ans, il ne va pas lui redire « est-ce que c'est bien celui-là que tu veux ? Est-ce que tu es bien sûr ?» C'est-à-dire que ça va obliger l'enfant quand même à trouver le moyen de se faire comprendre et de s'ajuster à l'autre. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important dans le développement de l'enfant qu'on perd si on est trop dans des situations d'adultes d'adulte-enfant.
Oui, en même temps, Régine, moi, je dirais que c'est pas quelque chose qui s'est créé au fil des années. Oui. Je veux dire, au moment de la création des CAMS et de l'année CAMS, et Madame Lévy ayant créé un des premiers CAMS, a eu d'emblée l'idée de créer des structures, par les haltes garderies de la Patte, de créer des structures qui accueillaient ces enfants handicapés pour les inclure dans la vie de tous les jours. Et donc, très rapidement, cette novatrice de l'action précoce a créé cette structure où un tiers des enfants sont porteurs de handicap et les 2/3 sont des enfants tout venants. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que la plupart maintenant des enfants sont inclus dans les crèches, les haltes garderies. On fait un énorme travail pour accepter et inclure totalement ces enfants. Mais je dirais que c'est partie prenante de l'action précoce. On ne peut pas imaginer l'action précoce sans ce dispositif. Mais la question, c'est qu'on n'a jamais évalué l'intérêt réellement de cette pratique. Pourquoi est-il si important que les enfants handicapés soient avec leur père ?
Alors, on a jamais fait sans, mais c'est dur de faire avec aussi. Dernier mot, ouais.
Je pense que ça nous permettra aussi de nous baser sur cette étude pour insister à la socialisation de ces enfants, parce que beaucoup sont halte-garderie, certes, mais quoi, 1 heure par semaine, 2 heures par semaine. On a quand même une disparité sur les prises en charge de ces enfants dans le milieu ordinaire.
On revient et on en reparle dans un instant avec vous, promis.
11h midi, recherche et partage avec la FIERA sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Geneviève Laurent, Régine Sell et Anne-Emmanuel Piquet-Massin sont avec nous ce midi sur Vivre FM. On parle de facteurs favorisant ou entravant les relations entre des enfants handicapés et d'autres enfants handicapés aussi, ou des enfants issus du milieu ordinaire. À vous écouter, effectivement, on comprend vite l'intérêt de rééquilibrer, on va dire, les relations avec les autres enfants qui ont été un petit peu oubliés peut-être ces derniers temps. Et c'était surtout des relations avec du personnel adulte, d'encadrants, de médecins qui étaient peut-être favorisés. Comment on va faire du coup, dans ce projet de recherche appliquée, qu'est-ce que concrètement vous allez mettre en place chacune dans vos associations ou dans vos structures et conjointement pour justement étudier, analyser, voir un petit peu ce qui se passe, quelles sont ces relations et essayer d'apporter des réponses, des solutions, des débuts en tout cas de solutions. Régine,
peut-être. Alors, La première chose, c'est que ce sont des enfants qui, pour qu'on les connaisse, on doit prendre un peu de temps. C'est-à-dire, c'est pas en y allant une fois, une demi-heure, qu'on va comprendre par quel moyen l'enfant entre en relation avec ses pères. Hein, parce que c'est des enfants pour lesquels les choses sont relativement lentes. Donc, on va le faire sur 2 ans pour un même enfant. Donc, l'idée, c'est de faire des études de cas. Et l'idée fondamentale aussi, c'est de pouvoir faire travailler ensemble des parents, des professionnels et des psychologues sur qu'est-ce qu'ils observent de cet enfant dans ses relations avec les pères, en prenant en compte à la fois les frères et sœurs, les enfants du quartier dans le jardin du quartier, et comment ça se passe dans le lieu d'inclusion de l'enfant. Hein, puisque les relations, la manière dont l'enfant va initier ses relations avec les autres n'est pas forcément les mêmes à la maison, dans le centre, dans le jardin de quartier, ou à la crèche, ou à la halte-garderie. Donc ça, Alors, avec plusieurs objectifs, d'une part, ce qu'on appelle des études de cas approfondies, c'est-à-dire qu'il y aura 30 enfants qui seront suivis de façon approfondie par les psychologues qui suivent les enfants, donc avec des observations fines. Il va y avoir une grille d'observation qui sera remplie par les professionnels, par les parents et par la psychologue. Donc la même grille qui sera remplie 3 fois au cours de ces 2 ans pour pouvoir comparer ce que chacun a pu observer des initiatives de relations et de ce qu'a entravé les relations. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, quand un enfant, parfois pour aller voir le copain, il lui faut beaucoup de temps. Quand on n'observe pas, on n'a pas vu qu'il initiait le geste. Et donc, on va juste voir qu'il n'y est pas allé. Quand on observe et qu'on voit qu'il initie le geste, peut-être qu'on va faire en sorte de surtout pas intervenir pour le laisser finir son geste. Voilà, c'est un peu l'idée aussi d'une formation à l'observation, parce que c'est ce dont on a besoin pour soutenir les compétences de l'enfant à interagir avec l'autre.
L'observation, mais en se basant, j'imagine, très fortement sur l'expérience donc des proches, des aidants, des familles qui ont un rôle essentiel aussi dans cette étude.
Oui, moi je rebondirais bien sur la place des parents dans cette histoire-là, parce que je crois que le handicap bouleverse complètement les représentations des parents par rapport à ce qu'ils attendaient d'un enfant sans doute différent. Et je pense que les parents ont dans un premier temps besoin d'être sécurisés. Et d'être sécurisés parce que leur enfant différent est peut-être plus lent, comme le dirait Régine, plus vulnérable. Et ils vont avoir besoin de constater peut-être que leur enfant est aussi capable d'aller dans un groupe et que cette capacité, ils vont devoir la vérifier, l'expérimenter. Donc c'est souvent des parents qui vont demander de participer à des groupes avec leurs enfants, de voir, faire confiance n'est pas donné d'avance. Quand vous avez un enfant qui n'a pas de difficultés particulières, il est avec ses copains et vous vous inquiétez pas plus que ça. Pour ces enfants, et en particulier lourdement handicapés ou avec certains types de handicap, c'est parfois des enfants fragiles et les parents ont, à juste titre, peur de les mettre avec leur père. Donc ça demande aussi d'expérimenter peut-être dans une structure un petit peu particulière avant de rentrer dans le groupe, par exemple, des copains de crèche.
En fait, on voit du coup, à vous entendre, que ce soit les médecins, que ce soit les encadrants, les familles et les enfants eux-mêmes, les premiers concernés, tout le monde est demandeur de ça. Et cette étude et une meilleure observation, plus fine, plus juste de ces relations, va permettre finalement non seulement d'améliorer la vie des personnes concernées, mais aussi finalement de favoriser, de faire en sorte, disons, que les relations médicales par ailleurs vont y gagner aussi. C'est-à-dire tout le monde va y gagner, tout va être un petit peu mieux fait. En tout cas, c'est ce qu'on pressent peut-être.
J'attends aussi que les professionnels, que ce soit les professionnels de la petite enfance, auxiliaires de périculture ou des crèches, ou alors puéricultrices ou éducatrices de jeunes enfants, aussi bien que du milieu spécialisé, apprennent à connaître ces enfants et leur laissent le temps de vivre, le temps de faire des expériences, le temps de les regarder et surtout le temps de rien faire avec eux, pour qu'ils prennent plus amplement leur propre personnalité, enfin leurs propres compétences.
Et puis vous,
alors, je pense que ce qui est important aussi, c'est que l'idée de cette étude, qui s'appuie aussi sur une pratique, c'est que finalement les enfants handicapés prennent parfois des chemins assez originaux pour se manifester, pour susciter l'attention de l'autre, pour, si on ne les observe pas, on ne le voit pas, et au bout d'un moment, ça tombe. Parce qu'un enfant, il développe quelque chose qui est repéré, qu'on soutient, si on l'entrave, ça. Et ça, c'est important aussi pour les enfants non handicapés. Hein, ça, je crois qu'on a, quand même dans la littérature quelques expériences qui montrent que finalement, observer, valoriser la manière dont l'enfant handicapé va se débrouiller pour aller solliciter le petit copain qu'il aura choisi peut tout à fait être utile pour les autres enfants. Hein, c'est-à-dire qu'il peut aussi trouver parfois des façons très originales d'interpeller l'autre qui peut tout à fait être intéressant pour les autres enfants. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose c'est pour ça que dans cette étude, on va observer l'enfant en situation de handicap avec ses pairs en situation de handicap dans cette situation et aussi comment les autres enfants peuvent réagir à sa manière, à lui ou à elle, d'entrer en relation.
De ce que j'entends, de ce que nous dit Régine, c'est-à-dire qu'en fait, on a créé des freins parce que finalement, on n'a souvent pas confiance, on a souvent plus peur que l'autre, on se dit « il ne va pas y arriver, donc on va mettre en place des choses », alors que finalement, en laissant un peu vivre ou en laissant se faire les choses, surtout dans le milieu des enfants, ça aurait peut-être mieux marché tout seul. C'est ça un petit peu l'idée aussi, de revenir à...
Enfin, mieux marcher tout seul ou en tous les cas, pas plus mal marcher sans trop d'intervention.
Mais c'est un petit peu la question. Bon, je pense que l'aide scolaire, l'aide humaine, hein, les AVS, c'est un progrès considérable pour l'inclusion de ces enfants. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait derrière une réflexion sur la présence discontinue de l'adulte. Sinon, effectivement, cet enfant n'est pas avec ses pairs, il est avec son AVS. Et c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement vigilant.
Il y a quelque chose que Geneviève a dit que je trouve très important. C'est-à-dire que si l'enfant grandit avec l'expérience, pour être bien, il me faut toujours un adulte, tout le temps. Quelle que soit ma situation, il ne saura pas que peut-être il peut faire sans l'adulte. Donc ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on voudrait observer, c'est-à-dire comment progressivement, c'est pour ça que c'est très important le longitudinal. Ce qu'on voudrait observer, c'est qu'est-ce qui va favoriser le fait que l'enfant ait suffisamment confiance en lui pour qu'il n'ait pas l'idée que sans un adulte, rien ne sera possible pour moi. C'est-à-dire qu'il se fasse confiance dans sa manière d'aller vers les autres. Ça, c'est très important.
Et en tant que professionnel, est-ce que, autour de vous, là je m'adresse à Anne-Emmanuel, est-ce que le corps médical, les proches avec qui vous travaillez, les encadrants, sont tous, on va dire, intimement convaincus de l'intérêt de ces observations, ou est-ce qu'il y a encore justement des personnes un petit peu dans le doute, enfin qui ne voient pas encore, disons, en quoi ça pourrait très nettement améliorer la vie des enfants?
Je crois qu'il y a un grand chemin à faire. Pour tout ce qui est rééducateur, on veut toujours faire plus, on veut toujours faire une séance de plus, et on favorise justement cette dualité adulte-enfant. Je pense qu'on commence peut-être à s'en apercevoir. Alors là, je parle des externats, où c'est des enfants qui sont accueillis toute la journée, où il y a une réflexion autour de laisser les faire. On va les laisser tranquilles pour établir, faire des petites classes où les enfants sont ensemble, sans qu'on les sorte du groupe pour faire cette rééducation, et qu'on ferait plutôt cette rééducation avec plusieurs enfants pour qu'ils continuent leur interaction ensemble. Il y a des réflexions, plein de réflexions.
Oui, moi je trouve que c'est très intéressant, toute cette dynamique, et j'irais même au-delà, je dirais que des fois, faire une séance de moins, mais qu'ils puissent expérimenter dans un petit groupe ce qu'il a acquis, hein, le gros travail de l'enfant, c'est de jouer avec ses pairs, hein, et je trouve que c'est cette dimension qu'il faut favoriser. Bien sûr, il a besoin de ses rééducations, mais je crois qu'il faut y réfléchir, si ça empiète, sur son temps de partage avec ses pairs. Et que le partage avec ses pairs, ça lui permet justement d'expérimenter toutes les compétences qu'il a et celles qu'on favorise, par exemple, dans la rééducation.
La rééducation, c'est pour pouvoir vivre sa vie d'enfant, donc derrière, il faut que ça suive.
Tout à fait.
On continue cette discussion dans un instant.
Vous écoutez Recherche et Partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour, toujours avec Geneviève Laurent, Régine Sell et le docteur Anne-Emmanuel Piquet-Massin autour de nos micros pour parler d'un projet de recherche qui est en cours de démarrage, en attente de financement. On y reviendra, on vous donnera les détails en fin d'émission. Mais évidemment, si vous connaissez des partenaires intéressés pour financer ce projet, n'hésitez pas. Il s'agit d'étudier, d'analyser, de beaucoup regarder, Régine va nous en dire un mot encore dans un instant, mais d'étudier les relations entre les enfants, entre des enfants handicapés et leur père, P-A-I-R-S dans ce cas, pour savoir comment ils interagissent entre eux finalement quand on les laisse un petit peu aussi faire seuls au lieu de leur imposer la présence d'adultes. Alors, une mission d'observation, une étude d'observation, vous nous avez dit, Régine, et un travail en collaboration avec des acteurs, comme dans tous les projets soutenus par la FIRA, des acteurs associatifs, des chercheurs, des médecins. Comment tout cela s'organise? Comment concrètement on met en place cette recherche qui va durer 3 ans?
Si elle est financée.
Si elle est financée, voilà. On mettra les liens sur le site pour que les gens intéressés sachent où aller donner des fonds.
Oui, alors en fait, cette recherche a été conçue par un laboratoire qui a une expertise dans ce domaine, mais avec des chercheurs qui ont la double position de chercheurs et de praticiens. Donc les chercheurs connaissent la pratique et les chercheurs sont tous insérés dans des réseaux de praticiens. Donc, je dirais que c'est une recherche académique, mais qui est menée par des chercheurs qui ont cette expertise. Par ailleurs, il y a un volet quand même qui est pour moi très, très important. Les études de cas, donc il y aura 30 études de cas, seront faites par des psychologues de terrain qu'on formera à l'étude de cas. Avec l'idée que si cette manière de mener les études de cas, donc d'analyser de façon très précise un enfant sur 3 ans avec le focus des relations aux enfants, ça pourrait permettre après, en pratique quotidienne, de pas poser simplement les questions « est-ce qu'il parle bien ?» mais aussi « et comment ça se passe avec ses petits copains ? Est-ce qu'il choisit des copains ? Est-ce qu'il en a ?» C'est-à-dire que cette préoccupation de « qu'est-ce qu'il en est des liens aux enfants ?» devienne une préoccupation dans la pratique courante parce que c'est fondamental pour l'enfant. Alors, il y a aussi un travail de collaboration avec les associations, donc avec les professionnels de terrain qui vont être formés, donc avec qui on va travailler. Avec les associations, parce que moi, j'ai mené déjà plusieurs recherches chez mon laboratoire à cette expérience de travail, de partenariat avec les associations, parce que les associations sont des formidables lieux où on peut entendre les questions que se posent les structures. C'est-à-dire qu'ils sont, l'ANECAM, ça a une expertise énorme dans ce qu'est la prise en charge précoce. Et donc, ça permet aussi à ces associations de nous aider à nous à dire là vous êtes complètement à côté de la plaque, c'est très intéressant ce que vous dites mais ça ne correspond pas du tout, ou que le chercheur puisse dire tiens vous ne parlez jamais de ça alors que nous ça... Donc là il y a quelque chose d'un partenariat au sens fort et bien évidemment les familles sont associées aussi puisque les 30 parents des enfants observés auront eux aussi à participer avec nous à la réflexion sur l'observation de leurs enfants. Voilà, donc c'est vraiment un travail partenarial, mais avec un pilotage académique, ça c'est très clair.
Voilà, on reste dans le cadre de la recherche. À propos d'associations, alors Geneviève va nous en dire un mot dans un instant, mais on a d'autres acteurs associatifs, je crois, qui participent au projet.
Trisomie
21 en France, qu'on n'avait pas cité, donc qu'on peut citer. L'année CAMS avec vous, Geneviève. Qui est un des acteurs importants, un des acteurs associatifs importants de cette recherche. Dans ce que vient de dire Régine, ça vous paraît, tout ça vous paraît exact, c'est-à-dire que c'est un apport, un complément entre les associations et les chercheurs qui est essentiel parce que vous avez l'expertise avec les proches,
oui.
Les familles.
Moi, je trouve absolument fondamental, justement, ce travail collaboratif entre une équipe de chercheurs et des équipes de terrain. C'est vrai qu'on manque d'outils d'évaluation de choses que l'on fait, mais qu'on n'évalue pas. Et sur le travail de groupe qu'on peut proposer, par exemple, à des enfants, qui est quand même quelque chose de singulier par rapport à ce que le libéral, par exemple, peut proposer, qui va prendre un enfant en rééducation individuelle, le fait aussi de proposer peut-être ces groupes d'enfants à l'intérieur d'une structure ou d'une institution, ou même d'une crèche, je pense que ça vaut le coup de pouvoir le théoriser et de dire oui, c'est fondamental au développement de l'enfant. On sait que l'enfant, qu'il soit handicapé ou pas, a une certaine empathie vis-à-vis des autres. Et je pense qu'on a besoin de le concrétiser, vous voyez, de pouvoir dire, eh bien oui, il va falloir travailler différemment et favoriser au maximum les séances avec ses pairs. Ce qui veut dire que favoriser au maximum, ben, c'est du temps qu'on va prendre sur autre chose et peut-être sur, parfois, certaines rééducations. Je m'avance, là.
Anne-Emmanuel, du côté du CESAP, c'est aussi comme ça que vous vivez les choses. Ça va demander effectivement du temps, ça va demander à certains de se remettre peut-être un petit peu en cause ou de réaménager, réadapter la façon qu'ils ont de travailler.
J'attends beaucoup parce qu'on essaye tous de faire pour le mieux. Et parfois on se dit, est-ce qu'on ne ferait pas mieux? Est-ce qu'on ne fait pas moins bien? Est-ce qu'on n'entrave pas l'enfant dans son développement en voulant bien faire? Donc j'attends vraiment beaucoup que Régine nous amène des pistes pour voir peut-être complètement revoir les séances de rééducation. Et peut-être qu'on verra qu'il ne faut pas les faire en individuel, qu'il faut les prendre avec deux enfants, trois enfants. Peut-être que finalement, voilà, peut-être que ça va nous faire réfléchir et penser la rééducation de ces petits de façon complètement différente.
Et là, c'est important pour ça d'avoir justement le cadre scientifique, l'étude.
Et il n'y a pas du tout d'études scientifiques dans le handicap, dans ce style de handicap, hein, enfin, dans ce style de rééducation, etc.
Mais je pense qu'il y a ce volet, mais il y a un autre volet quand même qui a été évoqué tout à l'heure, mais je crois que c'est important de la rappeler, c'est que quand même un certain nombre d'enfants en situation d'inclusion sont très isolés de leur groupe de pairs. Je crois que ça, il faut le dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas favoriser l'inclusion. Ça veut dire qu'on a vraiment un devoir de mieux comprendre comment l'enfant se situe pour éviter au maximum ces isolements, voire ces maltraitances que peuvent subir ces enfants vulnérables. Ces enfants sont vulnérables. Donc, ils sont plus à risque que d'autres d'être maltraités, y compris par leurs petits copains. Donc, je crois que ça, c'est aussi quelque chose d'important. À pouvoir repérer d'abord, puis analyser pour éviter ce type de situation.
C'est d'ailleurs la grande angoisse des parents de dire non, je ne vais pas mettre mon enfant à la crèche parce qu'on va le laisser dans un coin. Mmh. Comme il ne dit rien, il ne pleure pas, il ne râle pas et voilà, personne ne viendra l'embêter, mais personne ne s'occupera de lui. Et donc, c'est leur grande angoisse qu'il soit laissé sans personne.
Oui, tout à fait.
Alors, le fait d'avoir une meilleure connaissance de ces processus de sociabilisation, de ce dont sont capables finalement les enfants par eux-mêmes, quand vous allez arriver au terme de cette recherche, au bout de 3 ans, l'idée, ça va être de partager ces connaissances. L'idée, ça va être de répandre, entre guillemets, cette bonne parole qui n'en est pas une, qui sera des résultats scientifiques. Là, qu'est-ce qui va être mis en place? C'est-à-dire qu'il va y avoir un échange au niveau des autres professionnels, des autres associations. C'est-à-dire que l'idée, ça va être réellement de faire connaître ce travail et cette étude.
Ben, je pense que déjà, moi je tiens beaucoup à ce que va donner le résultat de l'utilisation de ces grilles d'observation de l'enfant régulière focalisée sur les relations entre enfants. Pour l'instant, dans la pratique courante, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise. Donc, je crois qu'au bout de ces 3 ans, on pourra dire, oui, les parents témoignent que d'avoir eu cette alerte sur « attention, comment ça se passe entre mes enfants », c'est quelque chose qui a été positif. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire le retour des équipes. À quoi ça nous a servi? Ça, ça va être une chose. Après, il y a la méthodologie d'étude de cas, qui, moi, je crois que c'est très, très important. Effectivement, si le retour qu'on en a, c'est « ça a été vraiment utile, ça a permis de... » Pour ces enfants-là, ça a permis un certain nombre d'avancées. Bien sûr, ce sera diffusé à la fois dans des revues scientifiques, mais aussi via les associations qui auront été partenaires, bien évidemment.
Et je rebondis, on arrive en fin d'émission, mais tout à l'heure, hors micro, Geneviève, vous me disiez, c'est effectivement d'autant plus important qu'il y a des parents qui ne se rendent absolument pas compte non plus de ça. Et vous me parliez d'un groupe de parents jokers qui s'était formé, parce que finalement, on avait perdu le réflexe de faire confiance, de leur donner l'opportunité de faire des choses. Donc c'est extrêmement important de pouvoir présenter à un moment des résultats en leur disant, mais Mais si, regardez, ayez confiance, on va pouvoir faire différemment.
Bah, je crois que Joker, c'est pas tout à fait ça. Si vous laissez des parents qui, justement, avaient bénéficié de groupes à l'intérieur du CAMS, et sortant du CAMS, les enfants sont dans diverses institutions, il n'y a plus forcément de groupes où ils sont suivis en libéral, parce que ça se justifie plus. Et donc, il n'y avait pas d'endroit de regroupement. Et eux, la question qui se posait dans la famille, c'était, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec nos enfants de niveaux différents, d'âges différents, pour partager un moment convivial ou voilà. Et en fait, ils se sont rassemblés entre eux, ils ont trouvé plein d'idées. Et maintenant, il y a plein d'idées et c'est un groupe qui fonctionne tous les week-ends ou une fois par mois, ça dépend. Voilà, je trouve que c'était autant pour les enfants que pour les parents avec leurs enfants. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on partage. Voilà.
C'était un autre contexte. Effectivement, là, oui. Les adultes sont effectivement inclus dans ces relations.
Non, mais je trouvais que c'était très intéressant parce que ça s'est... cette réflexion, elle s'est basée sur ces enfants, ils étaient ensemble dans des groupes au CAMS. Pourquoi on ne continuerait pas à l'extérieur? Parce que nous, parents, ça nous a beaucoup apporté que nos enfants soient dans ces groupes-là.
Et ben, en tout cas, on espère qu'on a convaincu nos auditeurs de l'intérêt de suivre cette recherche de près. Donc aujourd'hui, on le redit, ce que vous cherchez, c'est des financements pour pouvoir démarrer la recherche concrètement et la faire dans un cadre serein et adapté. Les financements en premier, hein, je crois qu'on en est là.
C'est-à-dire le projet en premier, après il faut l'argent pour réaliser le projet. Et oui, on en est là, effectivement.
C'est tout ce qu'on vous souhaite et on espère bien vous réaccueillir dans un an ou deux, quand le projet aura largement avancé, et pour confirmer ou infirmer, je ne sais pas, ce que vous présentez aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui, a priori, va se préciser, c'est-à-dire qu'effectivement, les relations, la sociabilisation entre enfants nécessite aussi un petit peu l'absence d'adultes, si on peut dire ça comme ça, de temps en temps, en tout cas, pour leur laisser une marge de sociabilisation.
En tous les cas, je pense que ça nécessite qu'on comprenne mieux comment ces enfants-là parviennent ou ne parviennent pas à nouer des liens. C'est pour ça que c'est pas si naturel que ça. Et ce que dit Geneviève, c'est que les parents se demandent « Mais comment mon enfant de 12 ans peut-il jouer avec son frère polyhandicapé de 5 ans ?» Ça paraît compliqué. Et je crois que là, il y a besoin aussi d'une meilleure connaissance.
Eh bien, grâce à vous, on l'aura. En tout cas, merci à toutes les trois, Geneviève Laurent, Régine Sel, Anne-Emmanuelle Piquet-Massin, merci beaucoup. Toutes les informations sur le projet, vous pouvez les retrouver sur le site de la FIRA, bien sûr, fira.org. Et bravo pour donc ce beau projet qui a quand même été lauréat de l'appel à projet de Lobby 16 de la FIRA. Et on lui souhaite eh bien, une longue vie, une longue continuation. Merci à toutes les trois.
Vivre FM, podcast.